Nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits et qui nous permet d'être ensemble autour de sa table. C'est le meilleur endroit où nous puissions être auprès de lui. Auprès de lui, à entendre les paroles qu'il nous donne, parce qu'il est un Père aimant qui a les bonnes paroles pour nous et nous sommes tellement heureux d'être là près de lui. Nous allons ce matin lire deux textes. Le premier dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Et là, nous allons lire les versets 10 à 22. Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Voici ce qui est écrit. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta, « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. » Le lendemain de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il l'appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. Amen. Le deuxième texte dans l'épître de Paul, l'apôtre aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Et là, nous allons lire les versets 3 à 6. Éphésiens, chapitre 1er, les versets 3 à 6. Il est écrit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Jusque-là, la parole de Dieu. Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, il est question de Jacob. Nous le connaissons bien, Jacob. Et Jacob est un homme assez particulier dans la Bible, puisque c'est un homme sur lequel reposait un très grand appel, une grande mission. Jacob avait sur sa vie un appel puissant, un appel fort. Il devait devenir le troisième patriarche, celui duquel sortiraient les 12 tribus et par lesquelles toutes les nations de la terre seraient bénies. Abraham avait été fait la première source de bénédiction et Jacob devait être ce prolongement, cette continuation d'Abraham et il devait être cette source de bénédiction pour toute la terre. Voici la mission de Jacob. Et pourtant, Jacob n'est pas un produit fini. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps à Jacob pour qu'il devienne ce qu'il devait devenir. Il y a eu tout un chemin, toute une maturation par laquelle Jacob a dû passer pour devenir ce que Dieu attendait de lui. entre ce qu'il était en naissant, entre l'identité qui était la sienne en naissant, et entre celui qu'il est devenu, c'est-à-dire Israël, celui qui a lutté avec Dieu, il y a eu un chemin énorme, il y a eu sur sa vie un programme de Dieu pour l'amener jour après jour à se rapprocher de ce qu'il devait être. Rappelez-vous que Jacob signifie en hébreu le talon et que le talon, ça fait assonance avec le trompeur, l'usurpateur. Donc voilà notre patriarche qui naît avec la mission d'être la source de bénédiction de toute la terre et son identité, c'est le trompeur, l'usurpateur, celui qui vole, celui qui ment, celui qui ne fait pas comme il faut. Et rappelez-vous que c'est absolument terrible parce que Dieu a dit qu'on l'appellerait pour toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est quand même terrible. Donc toutes les nations vont dire, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Quelle mission il y avait sur sa vie. Et pourtant, Jacob est un homme qui a quand même très mal commencé sa vie. Il a commencé par recevoir le droit d'aînesse de son frère. Alors on va dire qu'il ne l'a pas volé, mais bon, il a quand même utilisé de fourberies pour que son frère lui vende ce fameux droit d'aînesse. Il a trompé son père lorsqu'il s'est fait passer pour Ésaü, son frère. Et rappelez-vous, si vous relisez le texte, que lorsqu'il a été trompé son père, en se faisant passer pour son frère, il l'a juré au nom de l'Éternel qu'il était bien Ésaü. Un homme qui jure au nom de l'Éternel un mensonge. Et ensuite, Dieu a continué ce travail dans la vie de Jacob pour le transformer, pour le changer. Il a eu des conflits avec son frère Ésaü qui l'a poursuivi. Et dans ce voyage où son frère le poursuivit, il vit cet épisode que nous avons lu, cet épisode à Bethel, où il voit cette grande échelle. Mais le chemin de Dieu pour sa vie n'a pas terminé là, parce que après, Jacob a eu des difficultés avec son beau-père, puisqu'il voulait une femme et il a eu l'autre. Hein, on dit c'est c'est quand même malvar, hein, ça. Il en demande une, on lui donne une autre, on l'a trompé. Hein, c'est le trompeur qui est trompé, c'est l'arroseur qui est arrosé. Et ça aussi, c'est une épreuve dans laquelle Dieu l'a fait passer pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse devenir ce qu'il devait être. Et ensuite, c'était pas encore fini, il a eu la mauvaise femme. Finalement, il y a eu les deux, mais les deux se disputaient, elles n'étaient pas contentes. Donc, c'était encore un problème, encore un conflit qu'il y a eu dans la vie de Jacob. Ensuite, il a fui son frère. Il a fait une deuxième rencontre avec Dieu. La première, il l'a fait à Bethel, c'est le texte que nous avons lu. Et la deuxième, il l'a fait à Péniel, là où il s'est battu avec un ange pendant la nuit et que Dieu lui a donné son nouveau nom. Et finalement, il s'est réconcilié avec son frère. Ça nous dit donc, ça nous enseigne donc qu'il y a ce chemin de maturation par lequel Jacob est passé et par lequel Dieu nous appelle aussi, nous, à passer. Nous ne sommes pas des produits finis lorsque nous rencontrons Jésus. Nous ne sommes pas des gens terminés, parfaits, complets. Nous sommes des gens qui entrons dans un cheminement, dans un chemin de maturation dans lequel Dieu, étape par étape, va nous changer, nous transformer pour que nous puissions avoir la bonne identité. Et rappelez-vous qu'au début de ce thème sur les sept processus, nous avions dit que Dieu nous change et nous transforme premièrement par son esprit, par l'œuvre, l'illumination de son esprit en nous. Nous avions dit que Dieu nous transformait par sa parole. Jésus dit, déjà à cause de l'enseignement que je vous ai donné, vous êtes purs. Donc par sa parole, il nous purifie. Nous avions dit que Dieu nous transforme par les épreuves que nous vivons, comme Jacob qui a vécu cette épreuve d'être trompé par son beau-père et d'autres épreuves encore, la fuite. Nous avions dit que Dieu nous transforme par l'exemple des autres. L'exemple des autres est de nature à nous enseigner, à nous instruire. Et nous avions dit que Dieu nous transforme par des rencontres spéciales que nous faisons avec lui. Et c'est ce qui pousse l'apôtre Paul à dire, rappelez-vous notre verset de base, « Je combats pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. » Frédéric parlait dans sa prière de cette stature parfaite de Christ, qui est bien notre arrivée, notre destination. Et nous sommes dans un cheminement, dans un processus dans lequel Dieu nous change, Dieu nous transforme. Et c'est ce qui s'est passé pour la vie de Jacob. Dès lors, Jacob, sa vie a beaucoup à nous apprendre. Parce qu'elle nous instruit, elle nous montre par où nous aussi nous allons passer. Et aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à cet épisode à Bethel. C'est la bonne heure, ça. Ah. On est des filous ici. Hein? Bon. Et donc, nous allons nous intéresser à ce qui se passe à Bethel, dans cet endroit que Jacob va appeler la maison de Dieu. Et si Jacob a pu appeler cet endroit-là la maison de Dieu, ça peut nous instruire à nous sur qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu, puisque nous parlons de la maison du Père. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du Père? Qu'est-ce qui s'est passé pour Jacob dans la maison du Père? Et qu'est-ce qui, pour nous, peut se passer dans la maison du Père? Deux choses qui sont arrivées à Jacob dans la maison du Père et qui doivent nous arriver aussi si nous voulons bénéficier. Premièrement, Jacob s'ouvre à la réalité invisible. Et deuxièmement, Jacob entend les paroles de Dieu. Premièrement, Jacob s'ouvre à la réalité invisible. C'est Dieu qui va ouvrir pendant la nuit l'intelligence de Jacob pour que Jacob voie cette échelle qui est posée sur la terre, qui monte jusqu'au ciel et sur laquelle des anges sont en train de monter et de descendre. Jacob est ouvert à la réalité spirituelle. Ce qu'il voit, c'est la réalité. Très souvent, nous avons l'impression que ce qui est spirituel, ce n'est pas une réalité, que c'est une illusion, que c'est une invention. Pas du tout. Ce qui est spirituel, c'est ce qui ne se voit pas, mais c'est une réalité. Il y a autour de nous, il y a dans le ciel, il y a dans ce que nous ne voyons pas, une réalité qui est bien là. Une réalité qui est là. Lorsque Dieu montre à Jacob cette échelle, la réalité c'est quoi? C'est la réalité de cette communication qu'il y a entre le ciel et la terre, de cette fidélité aussi que Dieu promet à Jacob, puisque si vous regardez bien, les anges sont en train de monter et de descendre. Les anges ne descendent pas d'abord, ils montent et ils descendent. En d'autres termes, ils sont près de lui et ils remontent. Donc c'est signe de cette fidélité, les anges sont près de toi. Donc, Dieu va commencer, la première chose qui va se passer dans la maison du Père, la première chose qui va se passer à Bethel pour Jacob, c'est que Jacob va s'ouvrir à la réalité spirituelle. Il va être embarqué par Dieu à voir ce qui ne se voit pas. Il va avoir un œil détaché de sa réalité concrète, physique, et il va s'ouvrir à la réalité spirituelle. Et c'est la première chose qui se passe pour nous dans la maison du Père. C'est que Dieu nous ouvre les yeux sur la réalité spirituelle, la réalité invisible. C'est ce qu'on appelle la vie de la foi. La vie de la foi, c'est la vie dans laquelle nous apprenons à ne plus fonctionner uniquement parce que nous voyons, uniquement parce qu'il est devant nous, mais la vie dans laquelle nous commençons à voir ce qui se passe dans le ciel. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. » Notre vie, donc, ne doit plus seulement être une vie qui va au diapason de la terre, mais elle doit aussi aller au diapason du ciel. Il faut que notre vie vive au rythme du ciel. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus sur terre, nous sommes bien sur terre, la réalité est bien là, nous ne la lions pas, nous vivons, nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous sommes bien sur terre, les pieds bien sur terre, mais notre vie commence à aussi fonctionner en fonction de ce qui se passe au ciel. Dans la maison du Père, nous commençons à faire une place au ciel dans notre vie quotidienne. Le ciel, la réalité spirituelle invisible dans laquelle Dieu est, commence à avoir une place pour nous. Cette réalité céleste, c'est quoi? C'est Dieu qui règne pour toujours sur son trône. Cette réalité céleste, c'est l'éternité de sa personne, c'est la gloire qui se dégage de son trône. C'est l'adoration incessante qu'il y a autour de son trône. On a chanté tout à l'heure ce chant qui dit « Aide-moi à t'adorer comme on t'adore au ciel. » Comme on t'adore. Donc c'est vraiment cette réalité-là. Je demande à Dieu qu'il m'aide à faire une place au ciel dans ma vie pour que moi, j'adore comme on adore au ciel. Je suis bien sur terre, j'en suis bien conscient, je mange, je bois, mais j'ajoute dans l'équation de ma vie la réalité céleste de ce qui se passe au ciel. Cette réalité céleste, c'est la réalité des attributs de Dieu. De qui est Dieu? De sa personne. On a parlé la dernière fois de ses attributs, de sa sagesse, de son amour, de sa bonté, de sa grâce. Et en réalité, la première chose qui se passe dans la maison de notre Père, c'est qu'il y a comme une cassure, une brisure du cloisonnement. C'est-à-dire que sans nous en rendre compte, nous vivons une vie cloisonnée où il y a ma vie sur terre et le ciel, deux choses complètement différentes, deux choses complètement séparées. Il y a le ciel, il y a la terre, et puis bon, voilà. Et donc, dans la maison du Père, Dieu nous permet d'avoir ce cloisonnement qui s'en va pour que nous puissions, nous aussi, vivre en fonction du ciel. Vous savez même que Jésus va nous dire, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis tous les jours, je tiens compte de la volonté de Dieu au ciel. Je tiens compte de l'adoration de Dieu au ciel. Bethel, la maison de Dieu, c'est la rencontre entre la réalité terrestre et la réalité spirituelle. Ce qui est spirituel, c'est une réalité pour nous. Et nous entrons pleinement dans la maison du Père lorsque nous prenons conscience que cette réalité est bien là. Nous commençons à faire une place au ciel dans notre quotidien. Comment faire une place au ciel dans mon quotidien? Premièrement, par la prière. Quand je prie, je fais une place au ciel. J'ouvre dans ma vie une place au ciel. Et cette prière-là, évidemment, ce n'est pas forcément une prière qui dure 40 heures. Mais rien que le fait, au cours de la journée, de s'arrêter et de penser, de lever les yeux vers le ciel, je fais une place au ciel dans ma vie. Je suis, vous savez, même toute personne ici qui travaille le sait bien, quand on travaille, on travaille. On ne sait pas prier et travailler en même temps. On travaille, on a des choses à faire, on est dans une réalité qui est là et on doit bien se faire ce qu'on a à faire. Eh bien, on fait une place au ciel lorsque, au cours de nos journées, nous pouvons nous arrêter et lever les yeux vers le ciel quelques instants. Quelques instants, contempler Dieu, quelques instants dans ma journée, je fais une place au ciel dans ma vie. Un pasteur disait, c'est vrai que à la pause, vous devez faire un petit pipi, mais il faut s'y faire un petit pri-pri. Un petit pri-pri, c'est une petite prière. En d'autres termes, au cœur de nos vies, au cœur de nos journées, nous faisons une place au ciel parce que simplement, quelques instants, nous nous extirpons de la réalité qui est là et nous élevons nos regards vers celui qui est assis sur le trône, vers sa volonté, vers sa gloire, vers sa puissance, vers ce qu'il est. Premièrement, je sors de la tête de la réalité et je regarde vers le ciel. Faire une place au ciel dans ma vie, ça veut dire que je peux me lever chaque matin avec l'enthousiasme de me dire « Je vais aujourd'hui vivre sur terre pour le ciel ». La Bible nous dit, et on en a parlé il n'y a pas longtemps, que nous pouvons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est le texte qu'il dit, vous connaissez ce texte-là. Nous pouvons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Nous pouvons sortir chaque matin de notre lit avec un enthousiasme nouveau, conscient que je peux vivre ma journée, quelle qu'elle soit, pour le ciel, pour la gloire de Dieu. Un enthousiasme, une nouvelle joie. J'aime bien ce chant qu'il y a dans « À toi la gloire ». Jésus te confie une œuvre d'amour. Prie, agis jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. C'est tellement beau. Tu peux te lever ce matin en disant « Jésus me confie une œuvre d'amour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. » Nous pouvons nous lever, nous pouvons dès le matin lever les yeux vers le ciel et dire « Seigneur, je veux vivre cette journée pour toi. Je veux tenir compte de toi dans ma vie. » Nous pouvons aussi faire une place au ciel dans le fait de baigner dans l'adoration, de baigner dans la louange. Un petit défi pour cette semaine. Tous les matins, un psaume. Vous allez le faire? Vous allez le faire, c'est bien. Vous aimez bien mes défis, je sais bien. Le psaume 150, par exemple. Le psaume 150, commencez la journée par le psaume 150. Ça nous permet de ne pas vivre une vie qui est face, nez à nez avec la réalité terrestre, mais de tenir compte de la réalité céleste. L'éternel règne, majestueux, dans la gloire. Nous commençons à tenir compte du ciel dans notre vie. Nous pouvons tenir compte du ciel dans notre attitude face aux contrariétés. La Bible nous dit, dans Philippiens, faites toutes choses sans vous plaindre et sans hésitation. Faites toutes choses sans vous plaindre. Comment est-ce que l'apôtre peut dire ça à des gens qui vivent une vie humaine dans laquelle il y a des contrariétés, il y a des choses qui ne nous plaisent pas? Parce qu'il les invite à tenir compte du ciel dans leur vie. Faites tout sans vous plaindre. Faites tout sans vous plaindre. Vivre des journées, vivre une vie dans laquelle j'apprends à tenir compte du ciel, j'apprends à ne pas me plaindre, j'apprends à ne pas me laisser écraser, pas me laisser accabler par la réalité qui est devant moi. Parce que mon regard est au ciel, auprès de Dieu, dans sa fidélité, dans sa persévérance. La Bible appelle Dieu le Dieu de la persévérance. Voilà, elle appelle comme ça, le Dieu de la persévérance. Au début, au mois de janvier, on a fait les 30 jours sans se plaindre. Vous avez entendu parler de ça? Les 30 jours sans se plaindre, c'est à partir du Blue Monday. Vous savez c'est quoi le Blue Monday? C'est le deuxième lundi de janvier qui est considéré comme étant le jour le plus déprimant de l'année. Terrible, hein? Et alors, il y a une entreprise qui a fait les 30 jours sans se plaindre. Vous les avez fait? Qui a fait les 30 jours sans se plaindre? Oh, il n'y a rien à faire. C'est pas grave, on va le faire à nous, juste pour notre église. Et alors, on va le faire pendant un mois. Et alors, ce mois-là, je vais prêcher 4 fois. Tous les dimanches, c'est moi qui prêcherai. Et le premier dimanche, je prêcherai jusqu'à 12h30. Deuxième dimanche, jusqu'à 13h. 13h30, 14h. Et quand il y en aura un qui voudra se plaindre, ah non, on ne se plaint pas. Voilà. 30 jours sans se plaindre. Quelle bonne hygiène de vie que d'apprendre à regarder le ciel. Et ce n'est pas du positivisme, c'est se dire, Seigneur, je ne veux pas regarder à ce qui ne va pas. Je veux tenir compte du ciel. Je ne veux pas vivre dans la plainte. Combien de gens aujourd'hui, combien de gens à Charleroi sont déprimés chaque fois qu'il pleut? Chaque fois qu'il pleut, ils sont déprimés. Tout l'hiver, ils sont déprimés parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, mais bon, c'est pour toujours comme ça, ça ne va pas changer. Nous pouvons avoir une humeur qui est réglée au thermostat du ciel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la variation, des tristesses, il y en aura toujours. On est fatigué, on n'a pas envie, on a mal au dos, ça arrivera toujours. Mais nous pouvons avoir un thermostat, une humeur qui n'est pas dépendante seulement des circonstances, de la pluie ou du bon temps. Quelle vie triste! Que c'est triste d'avoir une vie réduite à ça! Chaque fois qu'il pleut, t'es pas bien. Ah, eh ben. Pauvre Marie, si sa femme est désagréable à chaque fois qu'il pleut, bon, nous pouvons tenir compte du ciel. Nous pouvons tenir compte du ciel lorsque, dans notre application, dans notre travail quotidien, Paul dit aux esclaves, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, le travail séculier, tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire pour le Seigneur. J'intègre le ciel dans ma vie, je tiens compte du ciel dans ma vie. Je ne le fais pas pour les hommes, je ne le fais pas pour le patron, je le fais pour le Seigneur. Je peux aller travailler pour le Seigneur, on peut tout faire. C'est fantastique d'avoir une vie qui peut tenir compte du ciel. Nous pouvons tout faire pour le Seigneur. Je peux me lever chaque matin en disant, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, c'est cette réalité spirituelle, ces bénédictions spirituelles en Christ qui ont un impact dans notre vie. Vous nous levez chaque matin en disant, je suis une personne pardonnée et justifiée. Moi, pardonnée, justifiée. Quel entrain ça peut donner à la journée de savoir que je commence la journée, je suis déjà pardonné. Justifié. Je suis délivré du monde et je suis délivré de l'esprit du monde. Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Je suis délivré de l'enfer, je suis délivré de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu. J'ai la vie éternelle. Quel encouragement c'est de tenir compte de la réalité céleste dans nos vies. Première chose qui va se passer pour Jacob. Il va s'ouvrir à la réalité spirituelle. Et pour nous aussi, il y a une réalité spirituelle de ces bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. Nous pouvons en tenir compte dans nos journées. Pardonner, justifier, laver, tout ça, ça peut avoir un impact concret lorsque nous brisons le cloisonnement et que nous commençons à tenir compte du ciel dans notre vie de tous les jours. Première chose qui va se passer pour Jacob. Deuxième chose qui va se passer pour Jacob, c'est qu'il va entendre les paroles de Dieu. Dieu va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et ce lieu sur lequel tu es, je te le donnerai. Donc, dans la maison du Père, deuxièmement, nous entendons les paroles de Dieu dont nous avons besoin. Le Père, et même le Père physique, c'est le Père qui va transmettre une identité à son fils. Il va transmettre une identité à son fils. Il va apprendre à son fils qui il est. Vous savez que Benoît, tous les matins, il fait asseoir ses enfants sur une chaise et il leur dit, vous êtes des Van der Capel. Un Van der Capel ne pleure pas. Un Van der Capel n'échoue pas. Un Van der Capel n'a peur de rien. Oui, et comme ça forge leur identité. Vous voyez? Mais donc le père, il va transmettre une identité à ses enfants. Il va leur apprendre qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent. Il va être un modèle pour eux. Il va communiquer des paroles à leur égard. Dans la maison de notre Père aussi, nous entendons les paroles de Dieu. Nous attendons les paroles de dévoilement de Dieu. On a parlé au tout début du culte. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous entendons ces paroles. Dieu se dévoile à nous dans la maison du Père. Dieu se dévoile à nous. Dieu s'est dévoilé à Abraham. Il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dans la maison du Père, Dieu se dévoile à nous. Dans la maison du Père, nous entendons des paroles qui vont nous déterminer. Vous savez que le grand flop de notre génération, c'est que nous n'entendons plus des paroles qui nous déterminent, qui nous disent qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Mais Dieu nous en dit des paroles qui nous déterminent, qui déterminent ce que nous sommes, qui déterminent ce pourquoi nous sommes là. Il nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Ça nous détermine, ça. Qui je suis le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ça nous détermine. Quand je me lève le matin, je sais qui je suis. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je dois faire. Parce que je suis déterminé par une parole qui vient sur moi. Il nous a dit, vous êtes des enfants de lumière. Ça nous détermine, ça. Et ces paroles de Dieu qui nous déterminent, elles vont avoir pour conséquence que nous allons développer une attitude, une vie qui va correspondre aux paroles déterminantes que nous avons entendues. Si j'entends que je suis un enfant de la lumière, eh bien je vais commencer à développer une vie qui soit conforme à la lumière. Et vous savez que dans les Épîtres, très souvent, l'apôtre, quand il parle aux gens, il leur dit « Cela ne convient pas à des saints, cela ne convient pas à des enfants de la lumière. » En d'autres termes, quand on entend les paroles déterminantes sur notre vie, vous êtes des enfants de la lumière, eh bien nous apprenons à développer une attitude de lumière. De me dire, ça ne convient pas à un enfant de la lumière ce que je suis en train de faire là. Ça ne convient pas à un enfant, ça ne convient pas. Ça ne me convient pas, ça ne convient pas à mon identité. J'entendais une jeune fille qui disait qu'un jour son papa lui a dit, mais je ne te reconnais plus, c'est pas toi ça. C'est pas toi ça. Quelque part, lorsque nous sommes face à la tentation, ces paroles déterminantes qui vont nous faire dire « c'est pas moi ça, ce péché-là, c'est pas moi, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon identité. » Rappelez-vous, Monseigneur Benoît de Montigny-le-Tilleul nous avait donné cet exemple-là du mort, la vie de ressuscité en Christ. La Bible nous dit que nous sommes morts au péché. Ça veut dire que quand j'ai envie de voler, ben non, un mort ne vole pas. Puisque je suis mort au péché, je ne peux pas voler. Un mort ne médit pas. Un mort n'insulte pas. C'est que nous devons nous considérer comme étant morts au péché. C'est notre identité. Le péché, pour nous, ça n'est pas notre identité. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans cette conscience-là, eh bien, nous développons une attitude qui va correspondre à l'identité que Dieu nous a donnée. Ça ne me correspond pas, ce n'est pas pour moi. Nous entendons des paroles qui nous situent. Nous entendons des paroles qui nous situent. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ça a un impact sur notre vie. Des paroles qui nous rassurent. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends même pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Des paroles qui nous avertissent. Des paroles qui nous instruisent. Dans la maison du Père, nous entendons ces paroles qui sont tellement nécessaires pour nous, et qui vont vraiment avoir un impact sur nous. Écoutez ce Jacob qui vit une vie, et puis il y a Dieu qui se dévoile à lui. Je suis l'Éternel. Et puis Dieu ne se contente pas de lui dire qui il est, Dieu veut aussi lui dire des choses pour sa vie à lui, à Jacob. Des choses qui vont lui permettre de conduire sa vie. La Bible nous dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ainsi donc, dans la maison du Père, nous avons besoin d'entendre Dieu nous dire, mon fils, je t'ai appelé à la liberté, ne retourne pas sous un esclavage. Mon fils, tu n'es pas obligé de laisser les pensées du monde diriger ta vie. Mon fils, ce genre de conduite que tu as, ne convient pas à la dignité de fils de roi. Mon fils, ne te laisse pas ronger par la rancune, parce que je suis le Dieu qui pardonne et je t'apprends à pardonner. Dieu nous dit, mon fils, ce que voient tes yeux et ce que veut ta chair ne sont pas des bons conseillers pour toi. Laisse plutôt mon esprit diriger ta vie. Dieu nous dit, mon fils, tu ne peux pas allonger ta vie d'une seule coudée avec tes inquiétudes. Apprends plutôt à me faire confiance. Mon fils, j'ai des projets pour toi qui sont bien meilleurs que tous ceux que tu peux imaginer. Mon fils, ne compare pas ce que tu es à ce que sont les autres et ne compare pas ce que tu as à ce que ta convoitise souhaiterait avoir. Je suis le Dieu sage qui fait toutes choses et qui donne toutes choses dans une parfaite mesure. Dans cette maison du Père, Dieu nous dit, mon fils, le péché m'offense, m'attriste, m'irrite. De plus, toute la satisfaction que le péché te donne masque tout ce qu'il détruit dans ta vie. Dans cette maison du Père, Dieu nous dit, mon fils, tu as rarement raison. Tes raisonnements t'induisent beaucoup en erreur. Plonge plutôt ton regard dans ma parole pour découvrir ma volonté et être en mesure de la vivre. Tu as rarement raison, mon fils. Dans cette maison du Père, Dieu nous dit, mon fils, les épreuves n'auront pas raison de toi parce que le dernier mot m'appartient. Dans cette maison du Père, Dieu nous dit, mon fils, dans ma grande prévoyance, j'ai prévu une échappatoire pour que tu puisses te sortir de toute tentation qui frappe à ta porte. Je te donne la victoire et je ne te laisserai pas succomber tant que tu t'appuieras sur moi. Lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, nous entendons ces paroles que Dieu nous dit, des paroles qui nous sont adressées personnellement, selon ce que nous vivons. Et ces paroles que Dieu nous dit, ces paroles que nous entendons dans la maison de notre Père, ces paroles qui nous rassurent, qui nous avertissent, qui nous reprennent, ce sont des paroles sur lesquelles nous allons pouvoir bâtir notre vie. Bâtir notre vie. Qui connaît l'histoire des trois petits cochons? Ah, il n'y a que Maura qui connaît cette histoire-là. L'histoire des trois petits cochons. Ça fait il y a longtemps pour toi, Jacques. Hein, mais... Ah, tu la connais. L'histoire des trois petits cochons, c'est quoi? C'est trois petits cochons pendus au plafond. Non, c'est pas possible. Et la maman qui vit chez leur maman, et la maman leur dit, ben, écoutez, je ne sais plus vous nourrir, vous devez vous en aller, vous devez partir au loin, vous devez bâtir vous-même votre maison. Mais attention, leur dit-elle, vous devez faire en sorte que votre maison soit bâtie avec des bons matériaux pour pouvoir résister au méchant loup lorsqu'il viendra. Et voilà les trois petits cochons qui s'en vont. Et le premier petit cochon passe et voit quelqu'un qui a un ballot de paille et lui dit, je peux avoir ton ballot de paille pour faire ma maison? Il dit, mais vas-y, prends mon ballot de paille pour faire ta maison. Et le deuxième petit cochon rencontre un monsieur qui transporte du bois et lui dit, je peux avoir ton bois pour faire ma maison? Il dit, mais vas-y, prends mon bois et fais ta maison. Et le troisième petit cochon voit quelqu'un qui transporte des briques et lui dit, est-ce que je peux avoir des briques pour construire ma maison? Et il va construire sa maison avec des briques et chacun fait sa petite maison, hein, une en paille, une en bois, une en briques. Et ensuite arrive le grand méchant loup. Et le grand méchant loup frappe à la porte de la maison de paille et il dit, est-ce que je peux rentrer? Alors le petit cochon dit, non, tu ne peux pas rentrer. Il dit, c'est pas grave, je vais souffler sur ta maison et elle s'envolera. Et il souffle et la maison s'envole. Alors le petit cochon s'en va et il va chez son frère qui a une maison en bois. Et il se réfugie là-bas. Alors le loup les suit et il va à cette maison en bois et il dit, est-ce que je peux rentrer chez vous? Et les petits cochons qui disent, ben non, tu ne peux pas rentrer. Il dit, je vais souffler et votre maison s'envolera. Il souffle et la maison en bois s'envole. Et puis voici les deux petits cochons qui vont chez leur grand frère dans la maison en briques. Et le grand méchant loup arrive devant cette maison-là et il dit, est-ce que je peux rentrer? Non, vous ne pouvez pas rentrer. Il dit, ben je vais souffler et votre maison s'envolera. Il souffle, et la maison ne s'envole pas. Il dit, mais c'est pas grave, je vais rentrer par la cheminée de votre maison. Et alors, pendant qu'il rentre dans la cheminée, les trois petits cochons font un petit feu, et le grand méchant loup tombe dans la cheminée, et il s'en va, et on n'entend plus parler de lui. Jésus nous a enseigné à bâtir avec des matériaux solides notre vie. Il nous a dit, car quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus nous a enseigné à bâtir nos vies sur ses paroles à lui. Et c'est ça qui peut assurer une solidité à notre vie. Il ne promet pas qu'il n'y aura plus d'épreuves. Le maître Gino nous avait parlé l'autre fois de la ville de Sion, il y a très longtemps. Et alors il disait, elle sera toujours attaquée, cette ville de Sion. C'est la même chose, nous serons toujours attaqués. Il y aura toujours des épreuves. Ce sera toujours difficile. Mais si nous bâtissons avec de la brique, c'est-à-dire si nous bâtissons sur les paroles de notre Père, nous aurons des maisons solides, des maisons dures. Il y aura du vent, il y aura du souffle, mais cette maison tiendra bon. Sur quoi est-ce que tu bases ta vie? Qu'est-ce qui détermine ta vie? Quand on te demande pourquoi est-ce que tu fais ça, est-ce que tu réponds, ben, j'ai envie, mon père m'a toujours dit de faire ça, ou à la maison, à la télévision, c'est ce qu'on dit, ou est-ce que tu réponds, c'est la parole de Dieu? Nous avons tout intérêt à bâtir nos vies avec des briques, avec la parole de Dieu, qui résiste, qui est sûre. À abandonner nos opinions. Éric parlait tout à l'heure, quand on veut aller vite, abandonner nos opinions pour prendre les matériaux de Dieu et pour bâtir nos vies avec. Nous avons tout intérêt à bâtir. Et le grand méchant loup s'en ira, et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il résistera, et il fuira loin de vous. Pour terminer, je voudrais lire avec vous un texte que Anne-Marie m'a fait découvrir, d'Antanne. Et c'est encore un texte. En fait, il y a le Notre Père. Le Notre Père, c'est nous qui nous adressons à notre Père. Et puis, quelqu'un a écrit le texte à l'envers. C'est Dieu qui s'adresse à son Fils. Et voici ce que dit le Père à son Fils. Mon Fils qui est sur terre, toi mon Fils qui es sur terre, préoccupé et soumis à la tentation. Je connais parfaitement ton nom et je le prononce en le sanctifiant parce que je t'aime. Tu n'es pas seul mon Fils, je vis en toi et je veux bâtir mon royaume en toi et avec toi. Mon Fils, je veux que tu fasses ma volonté, car ma volonté est gage de progrès et de plénitude. Fais-moi confiance, mon Fils, je sais ce qui sert à ton bonheur. Compte toujours sur moi et tu auras le pain de chaque jour. Ne t'inquiète pas, je te demande seulement de le partager aux autres. N'oublie pas, mon Fils, que je te pardonne lorsque tu m'as offensé et que tu te repens. Fais de même, sans réserve, avec les autres. Et vis devant moi et devant les autres une vie transparente. Et pour que tu ne succombes pas à la tentation, serre bien ma main, mon Fils. Je te délivrerai de tout mal. Tu sais que tout m'appartient, la joie, la paix, la gloire. Si tu me demeures fidèle, tu jouiras de tout cela, car tout ce qui est à moi, mon Fils, je te le partage. Dans cette maison de notre Père, nous entendons Dieu s'adresser à nous personnellement, nous dire des paroles qui vont déterminer notre vie. Que Dieu nous aide à grandir dans la maison du Père, à nous ouvrir à la réalité spirituelle, à tenir compte du ciel dans notre vie et à entendre les paroles que Dieu nous adresse personnellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.